Bonjour à tous et à toutes, Didier Delatte sur IDFM. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement, on fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une nouvelle de Guy de Maupassant. Son titre, Petit soldat. Alors, pourquoi celle-là? Pourquoi cette nouvelle parmi les 200 nouvelles au moins publiées par l'auteur de Bellamy? Eh bien, pour deux raisons. C'est que la médiathèque de Beson, à quelques kilomètres de nos studios, s'appelle Guy de Maupassant. Et aussi, cette nouvelle, Petit soldat, se déroule à la fin du 19e siècle, quelque part entre Courbevoie et les plaines encore agricoles de Beson, le long de la Seine. Et puis, Maupassant connaissait bien cette pointe d'aujourd'hui le Val d'Oise. Il aimait canoter le long de la Seine, de jour comme de nuit d'ailleurs. Il avait ses habitudes à Argenteuil et à Beson, mais aussi à Chatou, Bougival, Marly, et des nouvelles comme Sur l'eau, publié en 1881, et Mouche, en 1890, eh bien, dans ces nouvelles, la Seine était un élément clé de l'intrigue, comme on va le voir d'ailleurs dans cette nouvelle « Petit soldat ». Chaque dimanche, sitôt qu'ils étaient libres, les deux petits soldats se mettaient en marche. Ils tournaient à droite en sortant de la caserne, traversaient Courbevoie à grands pas rapides, comme s'ils eussent fait une promenade militaire. Puis, dès qu'ils avaient quitté les maisons, ils suivaient d'une allure plus calme la grande route poussiéreuse et nue qui mène à Beson. Ils étaient petits, maigres, perdus dans leur capote trop large, trop longue. Leur capote dont les manches couvraient leurs mains et, gênés par la culotte rouge, trop vaste, qui les forçait à écarter les jambes pour aller vite. Et sous le shako raide et haut, on ne voyait plus rien du tout de leur figure, de pauvres figures creuses de bretons, naïves, d'une naïveté presque animale, avec des yeux bleus, doux et calmes. Ils ne parlaient jamais durant le trajet, allant devant eux avec la même idée en tête qui leur tenait lieu de causerie, car ils avaient trouvé à l'entrée du petit bois des Champioux, du côté de Beson, un endroit qui leur rappelait leur pays, et ils ne se sentaient bien que là, vous savez, au croisement des routes de Colombes et de Chatou. Comme on arrivait sous les arbres, ils ôtaient leur coiffure qui leur écrasait la tête et ils s'essuyaient le front. Ils s'arrêtaient toujours un peu sur le pont de Beson pour regarder la Seine. Ils demeuraient là, deux ou trois minutes, courbés en deux, penchés sur le parapet. Ou bien, ils considéraient le grand bassin d'Argenteuil où couraient les voiles blanches et inclinées des clippers qui peut-être leur remémoraient leur mer bretonne. Le port de Vannes, dont ils étaient voisins, et les bateaux pêcheurs s'en allant à travers le Morbihan vers le large. Dès qu'ils avaient franchi la Seine, ils achetaient leurs provisions chez le charcutier, le boulanger et le marchand de vin du pays. Un morceau de boudin, 4 sous de pain et 1 litre de petit bleu constituaient leurs vivres emportés dans leur mouchoir. Mais, aussitôt sortis du village, ils n'avançaient plus qu'à pas très lents et ils se mettaient à parler. Devant eux, une plaine maigre, semée de bouquets d'arbres, conduisait au bois, au petit bois qui leur avait paru ressembler à celui de Kermarivan. Les blés, les avoines bordaient les trois chemins perdus dans la jeune verdure des récoltes, et Jean Kerderin disait chaque fois à Luc le Ganidec « Bah, c'est tout comme auprès de Plounivon. »« Ouais, c'est tout comme, » répondait son camarade. Alors, ils s'en allaient, côte à côte, l'esprit plein de vagues souvenirs du pays, plein d'images réveillées, d'images naïves, comme les feuilles coloriées d'un sou. Il revoyait un coin de champ, une haie, un bout de lande, un carrefour, une croix de granit. Chaque fois aussi, il s'arrêtait auprès d'une pierre qui bornait une propriété parce qu'elle avait quelque chose du dolmen de Locnevin. En arrivant au premier bouquet d'arbres, Luc Le Ganidec cueillait tous les dimanches une baguette de coudrier. Il se mettait à arracher tout doucement l'écorce en pensant aux gens de là-bas. De temps en temps, Luc citait un nom, rappelait un fait de leur enfance, en quelques mots seulement, qui leur donnait longtemps, longtemps à songer. Et le pays, le cher pays lointain, les repossédait peu à peu, les envahissait, leur envoyait à travers la distance ses formes, ses bruits, ses horizons connus, ses odeurs, l'odeur de la lande verte où courait l'air marin. Il ne sentait plus les exhalaisons du fumier parisien dont sont engraissées les terres de la banlieue, mais le parfum des ajoncs fleuris que cueille et qu'emporte la brise salée du large. Et les voiles des canotiers apparus au-dessus des berges leur semblaient les voiles des caboteurs aperçus derrière la longue plaine qui s'en allait de chez eux jusqu'au bord des flots, là-bas, en Bretagne. Il marchait à petits pas, Luc Le Ganidec et Jean Carderin, content et triste, hanté par un chagrin doux, un chagrin lent et pénétrant de bête en cage qui se souvient. Et quand Luc avait fini de dépouiller la mince baguette de son écorce, ils arrivaient au coin du bois où ils déjeunaient tous les dimanches. Ils retrouvaient les deux briques cachées par eux dans un taillis et ils allumaient un petit feu de branches pour cuire leur boudin sur la pointe de leur couteau. Et quand ils avaient déjeuné, mangé leur pain jusqu'à la dernière miette et bu leur vin jusqu'à la dernière goutte, eh bien, ils demeuraient assis dans l'herbe, côte à côte, sans rien dire, les yeux au loin, les paupières lourdes, les doigts croisés comme à la messe, leurs jambes rouges et allongées à côté des coquelicots du champ. Le cuir de leur shako et le cuivre de leurs boutons luisaient sous le soleil ardent, faisaient s'arrêter les alouettes qui chantaient en planant sur leur tête. Vous êtes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte consacré à Guy de Maupassant, plus exactement à l'une de ses innombrables nouvelles intitulée « Petit soldat » et qui se déroule au bord de la Seine, sur la commune de Beson. On retrouve nos deux jeunes conscrits, Jean Carderen et Luc Le Ganidec, deux jeunes bretons un peu perdus pendant leur service militaire, bien loin de leur village d'origine, dont ils ont la nostalgie, mais dont l'amitié leur permet de surmonter le mal du pays. Vers midi, ils commençaient à tourner leur regard de temps en temps du côté du village de Beson, car la fille à la vache allait venir. Elle passait devant eux tous les dimanches pour aller traire et remiser sa vache, la seule vache du pays qui fût à l'herbe et qui pâturait une étroite prairie sur la lisière du bois, plus loin. Ils apercevaient bientôt la servante, seul être humain marchant à travers la campagne. Et ils se sentaient réjouis par les reflets brillants que jetait le seau de fer blanc sous la flamme du soleil. Jamais ils ne parlaient d'elle, ils étaient seulement contents de la voir, sans comprendre pourquoi. C'était une grande fille vigoureuse, rousse et brûlée par l'ardeur des jours clairs, une grande fille hardie de la campagne parisienne. Une fois, en les revoyant assis à la même place, elle leur dit « Bonjour, vous venez donc toujours ici ?» Luc Le Ganidec, le plus osant des deux, balbutia « Bah oui, nous venons au repos, quoi. » Ce fut tout. Mais le dimanche suivant, elle rit en les apercevant, elle rit avec une bienveillance protectrice de femmes dégourdies qui sentaient leur timidité et elle leur demanda « Mais qu'est-ce que faites-vous comme ça? Et c'est-y que vous regardez pousser l'herbe ?» Luc, égayé, sourit et répondit « Bah peut-être bien, tiens. » Et elle reprit « Ah, ça va pas vite, hein ?» Il répliqua, riant toujours « Ah, pour ça, non !» Elle passa, mais en revenant avec son seau plein de lait, elle s'arrêta encore devant eux et leur dit « En voulez-vous une goutte ? Ça vous rappellera le pays, tiens. » Avec son instinct d'être de même race, loin de chez elle aussi peut-être, elle avait deviné et touché juste. Ils furent émus tous les deux. Alors elle fit couler un peu de lait, non sans peine, dans le goulot du litre de verre où ils apportaient leur vin. Et Luc but le premier, à petite gorgée, en s'arrêtant à tout moment pour regarder s'il ne dépassait point sa part. Puis, il donna la bouteille à Jean. Elle demeurait debout devant eux, les mains sur ses hanches, son seau par terre à ses pieds, contente du plaisir qu'elle leur faisait. Puis, elle s'en alla en criant « Allons, adieu, à dimanche prochain !» Et ils suivirent des yeux aussi longtemps qu'ils purent la voir, sa haute silhouette qui s'en allait, qui diminuait, qui semblait s'enfoncer dans la verdure des terres. Quand ils quittèrent la caserne la semaine d'après, Jean dit à Luc « Faut-il pas aller acheter quelque chose de bon à la fille ?» Et ils demeurèrent fort embarrassés devant le problème d'une friandise à choisir pour la fille à la vache. Luc opinait pour un morceau d'andouille, mais Jean préférait les berlingots, car il aimait les sucreries. Son avis l'emporta, et ils prirent chez un épicier pour 2 sous de bonbons blancs et rouges. Ils déjeunèrent plus vite que de coutume cette fois-là, agités par l'attente. Ce fut Jean qui l'aperçut le premier. « Lave-la » dit-il. Luc reprit « Ouais, lave-la ». Elle riait de loin les voyant. Elle cria « Ça va-t-il comme vous voulez ?» Ils répondirent ensemble « Et de votre part ?» Alors, elle causa, elle parla de choses simples qui les intéressaient, du temps de la récolte, de ses maîtres. Ils n'osaient point encore offrir leurs bonbons qui fondaient doucement dans la poche de Jean. Luc enfin s'enhardit et murmura « Nous vous avons apporté quelque chose. » Elle demanda « Ma cassette donc ?» Alors, Jean, rouge jusqu'aux oreilles, atteignit le mince cornet de papier et le lui tendit. Elle se mit à manger les petits morceaux de sucre qu'elle roulait d'une joue à l'autre et qui faisaient des bosses sous la chair. Les 2 soldats, assis devant elle, la regardaient, émus et ravis. Puis, elle alla traire sa vache et elle leur donna encore du lait en revenant. Ils pensèrent à elle toute la semaine. Ils en parlèrent plusieurs fois. Le dimanche suivant, elle s'assit à côté d'eux pour deviser plus longtemps. Et tous 3, côte à côte, les yeux perdus au loin, les genoux enfermés dans leurs mains croisées, ils racontèrent des menus faits et des menus détails des villages où ils étaient nés, tandis que la vache là-bas, voyant arrêter en route la servante, tendait vers elle sa lourde tête aux naseaux humides et mugissait longuement pour l'appeler. La fille accepta bientôt de manger un morceau avec eux et de boire un petit coup de vin. Souvent, elle leur apportait des prunes dans sa poche, car la saison des prunes était venue. Sa présence dégourdissait les 2 petits soldats bretons qui bavardaient comme 2 moineaux. Or, un mardi, Luc le Ganidac demanda une permission, ce qui n'y arrivait jamais, et il ne rentra qu'à 10 heures du soir. Jean, inquiet, cherchait en sa tête pour quelle raison son camarade avait bien pu sortir ainsi. Le vendredi suivant, Luc, ayant emprunté 10 sous à son voisin de lit, demanda encore et obtient encore l'autorisation de quitter la caserne pendant quelques heures. Et quand il se mit en route, avec Jean, pour la promenade du dimanche, il avait l'air tout drôle, tout remué, tout changé. Garderin ne comprenait pas, mais il soupçonnait vaguement quelque chose sans oser deviner ce que cela pouvait être. Ils ne dirent pas un mot jusqu'à leur place habituelle dont ils avaient usé l'herbe à force de s'asseoir au même endroit. Et ils déjeunèrent lentement, ils n'avaient faim ni l'un ni l'autre. Bientôt, la fille apparut. Ils la regardaient venir comme ils faisaient tous les dimanches, et quand elle fut tout près, Luc se leva et fit deux pas. Elle posa son seau par terre et l'embrassa. Elle l'embrassa fougueusement en lui jetant ses bras au cou, sans s'occuper de Jean, sans songer qu'il était là, sans le voir. Et lui Jean, il demeurait éperdu. Lui, le pauvre Jean, si éperdu qu'il ne comprenait pas, l'âme bouleversée, le cœur crevé, sans s'en rendre compte encore. Puis la fille s'assit à côté de Luc et ils se mirent à bavarder. Jean ne les regardait pas. Il devinait maintenant pourquoi son camarade était sorti deux fois pendant la semaine. Et il sentait en lui un chagrin cuisant, une sorte de blessure, ce déchirement que font les trahisons. Luc et la fille se levèrent pour aller ensemble remiser la vache. Jean les suivit des yeux. Il les vit s'éloigner côte à côte. La culotte rouge de son camarade faisait une tache éclatante dans le chemin. Ce fut lui qui ramassa le maillet et frappa sur le pieu qui retenait la bête. La fille se baissa pour traire la vache, tandis qu'il caressait d'une main distraite l'échine coupante de l'animal. Puis, ils laissèrent le seau dans l'herbe et ils s'enfoncèrent sous le bois. Jean ne voyait plus rien que le mur de feuilles où ils étaient entrés. Et il se sentait si troublé que s'il avait essayé de se lever, eh bien, il serait tombé sur place, assurément. Il demeurait immobile, abruti d'étonnement et de souffrance. D'une souffrance naïve et profonde, il avait envie de pleurer, de se sauver, de se cacher, de ne plus voir personne, jamais. Tout à coup, il les aperçut qui sortaient du taillis. Ils revinrent doucement, en se tenant par la main, comme font les promis dans les villages. C'était Luc qui portait le seau. Ils s'embrassèrent encore avant de se quitter, et la fille s'en alla après avoir jeté à Jean un bonsoir amical et un sourire d'intelligence. Elle ne pensa point à lui offrir du lait cette fois-là. Alors les deux petits soldats demeurèrent côte à côte, immobiles comme toujours, silencieux et calmes, sans que la placidité de leur visage montrât rien de ce qui troublait leur cœur. Le soleil tombait sur eux, la vache parfois mugissait en les regardant de loin. À l'heure ordinaire, ils se levèrent pour revenir. En chemin, Luc épluchait une baguette. Jean portait le litre vide. Il le déposa chez le marchand de vin de Beson. Puis, ils s'engagèrent sur le pont et, comme chaque dimanche, ils s'arrêtèrent au milieu, afin de regarder couler l'eau quelques instants. Jean se penchait de plus en plus sur la balustrade de fer, comme s'il avait vu dans le courant quelque chose qui l'attirait. Luc lui dit « C'est-il que tu veux y boire un coup ?» Comme il prononçait le dernier mot, la tête de Jean emporta le reste du corps. Les jambes enlevées décrivirent un cercle en l'air et le petit soldat bleu et rouge tomba d'un bloc, entra et disparut dans l'eau. Luc, la gorge paralysée d'angoisse, essayait en vain de crier. Il vit plus loin quelque chose remuer, puis il aperçut la tête de son camarade surgir à la surface du fleuve, pour y rentrer aussitôt. Plus loin encore, il aperçut de nouveau une main, une seule main, qui sortit de la rivière et replongea. Ce fut tout. Les mariniers accourus ne trouvèrent point le corps ce jour-là. Luc revint seul à la caserne, en courant, la tête affolée, et raconta l'accident, les yeux et la voix pleins de larmes, et se mouchant coup sur coup. Il s'est penché si bien que la tête a fait culbute, et le v'là qui est tombé, et il ne put en dire plus long, tant l'émotion l'étranglait, s'il avait su. Cette nouvelle, Petit Soldat, a d'abord été publiée dans Le Figaro du 13 avril 1885, puis republiée de nombreuses fois, notamment dans le supplément littéraire du Petit Parisien du 7 juillet 1889, mais également dans le Gil Blas illustré du 9 août 1891. C'est peut-être cette nouvelle, Petit Soldat de Guy de Maupassant, qui explique pourquoi la médiathèque de Beson, à la pointe géographique de notre département, le Val-d'Oise, porte le nom de l'illustre novelliste et romancier de la fin du XIXe siècle. Une médiathèque dont Ambre Nadeau, directrice adjointe responsable jeunesse, nous présente le fonctionnement et les projets immédiats. Merci à vous, Ambre.
La médiathèque Maupassant, donc c'est la médiathèque de Beson, c'est un service public multifacette. Il est gratuit, ouvert à toutes et à tous. C'est un lieu ressource qu'on ait besoin de travailler, de renseignements, de faire des recherches dans l'espace numérique, mais aussi des découvertes, de s'évader par la lecture, la musique ou le cinéma, grâce à nos collections. C'est un lieu qui raconte des histoires, beaucoup, pour tous les goûts, pour tous les âges, des albums cartonnés qui fondent dans la bouche des bébés, car oui, on le répète, les livres, c'est bon pour les bébés, aux romans de genre, en passant par les essais, les bandes dessinées, les mangas, le théâtre ou la poésie, des livres, des CD, des DVD, des revues que l'on peut emprunter, mais que l'on peut aussi se faire raconter sur place lors de nos animations. Car oui, la médiathèque, c'est de plus en plus un espace de rencontre entre les usagers, avec des artistes, des auteurs, des conteurs, des musiciens. C'est ce qu'on essaye en tout cas de mettre en place avec une programmation culturelle riche et diversifiée. On a de la chance d'avoir une galerie avec des expositions qui tous les deux mois nous permettent de découvrir des artistes, plasticiens souvent, mais aussi des photographes. On a reçu samedi une conférence lecture autour de Pierre et Marie Curie sous l'angle de leur fascination pour les médiums, et on programme aussi des concerts une fois par trimestre. La médiathèque, c'est une toile tissée entre tout ce qui fait culture et les gens, qu'ils soient usagers ou créateurs. Et cette toile, elle peut aussi sortir de son cadre. Ce sera notamment le cas le 25 mai pour Beson Fête le Livre, première édition autour du polar. Ce sera une journée assez représentative de ce qu'est la médiathèque aujourd'hui. On commencera avec un spectacle jeune public à 10h30 dans l'univers des contes, un spectacle qui s'appelle Contes Enquête par la compagnie Sophisticois. On accueillera deux expositions, une documentaire sur les débuts de la police scientifique, l'autre du collectif des plasticiens besonnais qui se sont prêtés au jeu de créer autour de ce thème du polar. On accueillera toute l'après-midi des auteurs du genre pour des séances de dédicaces et une table ronde, notamment Frédéric Lepage, notre invité d'honneur, lauréat du prix du meilleur roman policier francophone au Festival de Cognac, pour son livre « Si la bête s'éveille », et également auteur de la série télévisée « Flair de famille ». Il y aura aussi Juliette Sachs, Sylvain Lepage et Pierre Luneval. Des ventes de livres de ses auteurs par la librairie des Citres, mais aussi une vente de livres d'occasion par les particuliers. Ce sera aussi l'occasion de résoudre des mystères en famille, car notre médiathèque propose une ludothèque et les jeux d'enquête seront donc proposés. Enfin, la musique et le cinéma ne seront pas oubliés puisque deux sessions de piano-bar ponctueront l'après-midi avec des reprises de classiques de films policiers, mais pas seulement. Ce sera donc un vrai aperçu de ce qu'est la médiathèque, à l'espace Triolet Aragon cette fois, le 25 mai à partir de 10h, et on espère vous y voir nombreux et nombreuses. Merci.
Maupassant aimait beaucoup le canotage, un loisir populaire qui mêlait employés, petits fonctionnaires, comme lui au départ, mais aussi la bohème artistique et les femmes, disons, aux mœurs légères, comme on disait à l'époque. On le retrouve dans certaines peintures qui représentent les canotiers, en costume rayé, les bras nus, un nouveau type parisien. Mais le canotage de Maupassant et de ses comparses était entouré d'une réputation sulfureuse. Les promenades en canot dans ce cadre enchanteur de la Seine étaient avant tout des parties de débauche. Et Flaubert, le père spirituel de Maupassant, tentera de le rappeler à l'ordre. Il lui écrivit par exemple « Il faut travailler plus que ça. Entendez-vous ? Songez aux choses sérieuses. Trop de canotage, trop d'exercices, trop de putains. Rendez-vous compte. » Maupassant, fin observateur, un brin pessimiste carrément, de la nature humaine, était aussi, plus inattendu peut-être, le précurseur de la crise du monde agricole telle que nous l'avons vécue au début de l'année 2024. Normand d'origine, il connaît très bien le monde des campagnes, le monde des paysans. Et par exemple, dans cette nouvelle qui s'appelle « Au champ », il raconte l'histoire assez extraordinaire, assez tragique aussi, de deux familles de paysans, les Tuvache et les Valin, qui ont une multitude d'enfants, qui d'ailleurs se confondent, les parents ne sachant pas toujours reconnaître leurs petits. Ils vivent dans la misère, bien sûr. Et un jour, voici que se présente à eux un couple de nobles de la ville qui n'ont pas d'enfants et qui leur propose d'adopter un des petits qui traîne un petit peu dans la ferme. Alors, que va-t-il se passer? Quelle famille va accepter? Quelle famille va refuser? Pourquoi? Et que deviendra le cher petit 20 ans plus tard lorsqu'il reviendra à la ferme voir ses parents naturels? C'est une histoire très belle, tragique. Enfin, on va entendre un extrait. Lue par Claire Vortam, ancienne prof de français qui partage ses passions sur YouTube. Et donc là, vous pouvez retrouver, c'est Au champ, lecture audio numéro 7.
Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle. « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants! Sont-ils jolis comme ça, grouillés dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit. « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit !» Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin en arrivant, son mari descendit avec elle. Et, sans s'arrêter aux mioches qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits, sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes seuls, mon mari et moi, nous le garderions, voulez-vous ?»
Je vous propose de retrouver sur YouTube la lecture en entier de « Au champ ». C'est une histoire assez pathétique et peut-être qui illustre justement, une centaine, un peu plus de 100 ans avant l'heure, la crise du monde agricole. C'était Didier Delattre sur IDFM. Vous retrouverez la playlist complète des illustrations sonores et musicales sur le podcast de l'émission, en ligne sur le site d'IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement ont fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.